entre les deux.
Alors, j'ai témoigné il y a 15 jours du problème de voiture qu'on a eu. Pascal, il m'a fait mal au cœur parce qu'il me dit, si tu avais fait les travaux avant, la courroie accessoire a été changée. C'est vrai. Voilà, au moins ça a été remis d'équerre. Mais voilà, bon, je ne vais pas tout réexpliquer, mais globalement, voilà, on part à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, à 1000 km. Et puis le lendemain, on va faire les courses. Donc le gîte était un peu dans un coin paumé. Et puis on fait 7-8 km pour aller à Digne. Et puis en revenant, bah, on tombe en panne. Et puis plus rien sous la pédale d'accélération. Donc on met la voiture comme on peut sur le côté. Et voilà. Et c'est le moment où on met la voiture sur le côté. Et on appelle l'assurance, le dépannage, tout ça. Puis on attend, forcément. Et dans la voiture, réflexion qu'on se fait, je pense, à peu près tous à ce moment-là, c'est à la volonté du Seigneur. C'est comme ça, hein, il n'y a rien qui arrive sans qu'il le veuille. Et en y réfléchissant un peu après, je me dis, est-ce qu'on n'est pas un peu fataliste en étant chrétien? Est-ce qu'on n'a pas tendance facilement à dire, bon, voilà, j'ai raté tel truc, mon permis, c'est la 15e fois, bon, c'est la volonté du Seigneur, hein. Moi, j'ai raté mon examen professionnel encore cette année, deuxième fois de suite. J'essaye pas de faire un record, hein, mais bah, c'est à la volonté du Seigneur après tout, hein. Et je me dis, on sert cette phrase-là assez facilement et on s'en sert presque d'excuse, en fait, quelque part. Et ça m'a travaillé tout ça. Et voilà, je me suis dit, en fait, on est fataliste. On dit, bah voilà, finalement, c'est la volonté du Seigneur, je peux rien y faire. C'est comme ça, hein, c'est tout. Et en tant que chrétien, nous, on dit c'est la volonté du Seigneur. Mais finalement, les musulmans, ils vont faire Inch'Allah, c'est la volonté d'Allah, c'est mon destin, c'est tout, c'est comme ça. Finalement, ça revient au même, quoi. On n'est pas mieux que les autres quand on dit ça. Je vous explique ma réflexion, hein. C'est pas que je vous accuse, c'est ma réflexion dans la tête. Mais si finalement, on réagit un peu comme les autres, on a notre petite excuse aux événements qui nous arrivent. Et puis, voilà, comme ça nous donne, quelque part, ça nous donne un peu bonne conscience, quoi. Moi, ça m'aide, hein, puisque dans l'occasion j'étais fautif. Tu dis, bah, c'est la volonté du Seigneur. Hein, après tout, on est tombé en panne. Lui, il sait pourquoi on tombe en panne. Vous avez vu peut-être aussi des fois dans des écrits les lettres DV. Et quelqu'un qui dit, alors ça vient de chrétiens en général, hein, qui disent, moi aussi, je vais faire ça l'année prochaine, DV. Deo volent, ça veut dire Dieu voulant. Et alors, c'est une phrase qui est très très bien à la base. Hein, c'est pas le souci. C'est juste que je me souviens, alors je ne sais plus qui, ni où, ni comment, donc j'ai plus le détail, mais je me souviens d'un écrit que j'avais lu où presque à chaque bout de phrase il y avait DV. Alors, je vais faire ci, DV, nan, DV, nan, DV, et puis à la fin c'est lourd, et quelque part ça perd un peu de son sens en fait, parce que ça devient presque une rengaine, et qu'il n'y a plus le souci, je pense qu'il y avait à la base de cette expression, il n'y a plus le souci de vraiment rechercher la volonté du Seigneur et de se soumettre à sa volonté. Parce que la phrase, c'est ça, en fait. Je n'ai pas cherché l'origine précise de l'expression, mais ça m'a fait penser à Jacques, chapitre 4, qui dit, à vous, alors je le reprends un petit peu plus haut, comme ça vous aurez le contexte. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc je pense que ça a l'air lié à ça, en tout cas l'expression. Et Jacques, il dit, alors il dit à qui déjà? Il dit à des gens qui sont en train de s'imaginer faire du commerce, gagner, et quelque part qui sont orgueilleux, qui pensent à leur propre vie. Il leur dit, vous devriez soumettre vos projets à Dieu et dire, bah voilà, si Dieu le veut, je vais faire ça, déjà je vais vivre. C'est une première étape, hein, parce qu'on n'en sait rien. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et Jacques, il continue et il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Pour ça, je disais, ils sont orgueilleux, ils se glorifient, ils cherchent leur profit à eux, ils pensent qu'à leur poire, en fait. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Donc je pense que l'idée, elle vient de là, l'expression vient de là, et que voilà, bien utilisée, c'est bien, en fait, hein. Si vous dites, bah voilà, l'année prochaine, je prévois de faire ça, si Dieu le permet, si Dieu le veut. C'est une bonne chose, c'est soumettre sa vie à la volonté du Seigneur, et je pense pas qu'il y a rien de mal à ça. Après, si à chaque bout de phrase, vous dites, si Dieu le veut, si Dieu le veut, ça, à force de l'utiliser, ça perd son sens. Alors, je reviens à ma question du fatalisme. Je me suis déjà un peu écarté du sujet. On va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. En réalité, dans la Bible, il y a une certaine forme de fatalisme. Si on prend les Lamentations de Jérémie, par exemple, Lamentations de Jérémie 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Le verset, il est relativement clair. Hein. Il dit, voilà, il n'y a rien qui arrive sans la volonté du Seigneur, sans qu'il l'ait ordonné. Et c'est sa volonté qui fait qu'on a des bonnes choses, qu'on a des mauvaises choses. Donc finalement, on n'est pas, quand on dit, ben, c'est la volonté de Dieu, oui, on ne se trompe pas, en fait. Hein. C'est effectivement, voilà, il a prévu des choses pour nous, et ça se produit, que ça soit bien ou pas bien. Alors nous, on a tendance déjà à utiliser cette petite phrase-là, c'est la volonté du Seigneur, quand il nous arrive des pépins. Hein. On y pense peut-être moins quand c'est des bonnes choses. Dans Jean 15, verset 5, alors tournez pas forcément parce qu'on va, on va prendre pas mal de petits versets comme ça. Jean 15, verset 5, ça nous dit, c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça aussi, hein, c'est plutôt clair. Et on va rajouter un petit dernier, Proverbe 19, verset 21, qui dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Donc vous voyez, finalement, c'est un peu ça, la Bible, quoi. C'est une question, Dieu, il a prévu des choses, il veut des choses, et ça s'applique comme il l'a prévu. Donc, bah, s'il nous arrive ça, c'est la volonté du Seigneur, c'est tout. Vous connaissez par cœur, probablement, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Là aussi, hein. Enfin, des versets comme ça, il y en a plein en fait dans la Bible. C'est tout le problème, c'est que le fatalisme, on peut le justifier avec ça. On peut dire, bah oui, tout est écrit, et puis Dieu, il a formé des projets, et ça va arriver. Alors je me suis dit, ça fait penser un peu à la question de destin. Puisque on pourrait presque dire, bah ça t'arrive, ah, c'est ton destin, c'est comme ça. Hein. Je dis, est-ce que le mot destin, il est dans la Bible finalement ? Pas simple, hein. On va lire 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. On va lire le verset 9 d'abord, chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mince, il nous a destinés. Et chapitre 3, versets 1 à 5. C'est, alors, je lis un peu le contexte aussi. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, qui dit « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » C'est moche, mais c'est écrit qu'on est destiné à souffrir. Et je vous dis ça avec un grand sourire. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Voilà, Paul, il enfonce le clou, hein, et puis il dit, voilà, je vous avais dit que ça allait arriver, c'est arrivé, vous le constatez, voilà, il n'y a pas... C'est comme ça, c'est la vie. Donc vous voyez que cette histoire de destin, il n'y a pas le mot de destin, mais il y a le mot de destiné. Alors bon, on n'est pas loin quand même, hein. Et en fait, il y a cette notion, je vais lâcher le gros mot parce qu'il faut à un moment donné, de prédestination dans la Bible. Parce que enfin, quand on parle fatalisme, on en arrive nécessairement là-dessus. Il y a cette idée de prédestination dans les versets qu'on a lus, voilà, que Dieu, il a tout prévu d'avance, il sait tout à l'avance, c'est écrit, c'est comme ça. Alors, j'ai pas la prétention de révolutionner le sujet. Hein. C'est un sujet, les gens ils s'écharpent depuis des siècles. C'est pas moi qui va arriver et dire coucou, j'ai la solution. Faut pas rêver. Mais j'aime bien le côté pratique des choses en fait. C'est parti d'une constatation assez pratique de dire bah tiens, ce qui m'arrive, voilà, c'est la volonté du Seigneur. C'est vrai, mais faut pas en rester là en fait. Et l'aspect prédestination, on l'a vu là. Alors, c'est très rapide. Hein. Il y a des gens, ils s'écharpent à coups de versets dans tous les sens. Il y a cette notion-là dans la Bible. On ne peut pas le nier, les versets ils sont relativement clairs. Dieu, il sait toutes choses à l'avance. Sinon, il ne serait pas Dieu. Et s'il sait, il le sait avec exactitude. Donc, quand ça se produit comme il le savait. Il y a pas... voilà, on ne peut pas dériver de ce qu'il savait qui allait se produire. Suivez encore. Donc, il y a cette notion-là dans la Bible. Dans la Bible, il y a aussi la notion de prophétie. C'est encore un exemple un peu de presque de destination, de prédestination ou de fatalisme. Qu'est-ce que c'est une prophétie? C'est un message qui est donné à l'avance. Alors ça, c'est une des facettes de la prophétie. C'est un message qui est donné à l'avance par quelqu'un qui dit voilà, il va se passer telle chose. Et puis à la fin, ça se passe comme ça. Voilà. Donc ça aussi, c'est une question de fatalisme quelque part. Et dans la Bible, il y a plein de prophéties. Vous prenez l'Ancien Testament, il y a des tonnes de prophéties sur le Nouveau Testament. Jésus, quelque part, il était destiné à venir sur terre et à mourir pour nos péchés. C'était son destin, si on peut le dire comme ça. Alors, ça sonne pas bien dans nos bouches en tant que chrétien, mais quelque part, il avait prévu ça avant même que le monde soit créé, de venir et de payer pour nous, de mourir, tel que c'était, voilà. Et ça a été écrit après par des prophètes. Dans le détail, Ésaïe, on parlait d'Ésaïe 53, c'est d'un détail, voilà. Hein. Et ça s'est passé comme ça. Ça pouvait pas se passer autrement, en fait, quelque part. Donc voilà, même la venue de Jésus, quelque part, c'est presque une fatalité. La mort de Jésus, c'était presque une fatalité. Les prophéties, elles s'accomplissent. Alors je prends là aussi quelques versets juste pour d'enfoncer le clou. Hein. Habacuc, qu'on lit pas souvent, chapitre 2, nous dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans Ésaïe 46, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Là aussi, quand on dit mes desseins, on n'est pas loin de la notion de destin, de volonté. Enfin, voilà, on gravite autour de ça. Et pour prendre le Nouveau Testament, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais ça c'est l'Ancien, c'était les prophéties, maintenant dans le Nouveau c'est différent. Hein. Dans Romains 8, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, là le gros mot, à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Ancien comme Nouveau Testament, il y a cette notion de « c'est écrit d'avance ». Alors l'avertissement que je veux donner, c'est de ne pas rester là-dessus en fait. Parce que là, on n'a vu qu'une seule facette, qui est effectivement que dans la Bible, il y a « Dieu sait tout ». En gros, ça se résume à ça, hein. Dieu sait tout, il a tout prévu d'avance, et ça va se passer comme il a prévu. Il a prévu qu'à la fin, le diable allait recruter du monde, on va dire, et allait se rebeller contre lui, et qu'il perdrait définitivement, qu'il le détruirait définitivement. C'est écrit, ça s'accomplira. Ça, c'est presque l'aspect fatalisme qui peut nous intéresser, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça va se produire. Donc on peut avoir confiance, en fait. Mais le raisonnement de dire c'est la volonté du Seigneur et c'est comme ça, il est dangereux en fait. Il est dangereux parce qu'on peut dériver, on peut déraper vers plein de trucs qui sont pas sains et qui correspondent plus à l'idée qu'il y a dans la Bible en fait. Je vous donne juste trois exemples, vous allez voir où je vais en venir. Après, vous voyez, on peut faire les exemples qu'on veut là-dessus. Hein. Moi, quand je conduis, je fais pas gaffe aux limitations de vitesse. Voilà. Je dépasse par la droite, je roule n'importe comment. De toute façon, si Dieu a pas prévu que je meure aujourd'hui, je mourrai pas. Hein. Et s'il y a prévu que je meure, j'ai beau faire attention, eh ben je mourrai quand même. Hein. Faut pas dire ça à un policier municipal. Après tout, lui il sait, donc je vais pas me prendre la tête, je roule comme j'ai envie et puis c'est tout. Vous voyez, on peut dériver comme ça et ça donne ce comportement-là. Autre exemple, je suis tenté par quelque chose de mal, je craque, mais c'est pas ma faute en fait. De toute façon, il le savait, après tout. Moi, j'y peux rien, c'est écrit d'avance que j'allais craquer. Et voilà, moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu, je peux rien faire sans lui, c'est écrit. Donc, si je craque, c'est qu'il n'a pas encore fait suffisamment dans ma vie. Ça vous fait rire, hein, mais. Alors, je termine avec l'exemple le plus extrême, le moins crédible, on va de moins en moins crédible, en fait. Mon salut, j'y peux rien, en fait. C'est écrit d'avance, lui sait si je suis destiné à être sauvé, pas sauvé. Je mène ma vie comme je l'entends, j'essaie de faire plutôt bien quand même pour me donner bonne conscience. Et puis à la fin, si Dieu a prévu de me sauver, il fera quelque chose pour que je sois sauvé et puis c'est tout. De toute façon, sa volonté, elle s'applique quoi qu'il arrive. Donc s'il a prévu de me sauver, voilà. Et s'il n'a pas prévu de me sauver, Bah voilà, hein, tant qu'à faire, autant pas se compliquer la vie. Voilà, n'importe quoi. C'est un peu ça en fait. Avec la prédestination, si on le prend d'une manière trop extrême, on peut en arriver à n'importe quoi et quelque part à enlever notre responsabilité propre. C'est ça l'idée, c'est de dire bah, c'est la volonté de Dieu, moi, j'y peux rien. Et c'est pas ça que dit la Bible en fait. Parce qu'en même temps que la prédestination, en même temps que le fait que Dieu ait tout prévu, il y a la notion, là aussi, dans des tonnes de versets. Alors, on ne compte pas un tant de versets pour, tant de versets contre, mais il y a un nombre de versets incalculables qui disent qu'on est responsable de ce qu'on fait, qu'on est responsable de notre salut et qu'on doit répondre de nos actes en fait devant le Seigneur. Et on ne pourra pas dire, bah écoute, t'as qu'à prévoir une meilleure vie pour moi, c'est comme ça. Ça, c'est des phrases qu'on trouve nulle part dans la Bible en fait. Avec la prédestination, on peut justifier ce qu'on veut. Bon, j'ai pris la voiture, j'ai pris le salut, le fait de chuter, et on peut prendre ce qu'on veut en fait. C'est pratique pour nous. Alors j'ai réussi jusqu'ici à ne pas vous donner la définition du mot fatalisme. Et pourtant, quand on fait une étude biblique, pensez-y aussi le mardi soir, quand vous regardez quelque chose, lisez la définition. Après, on est d'accord ou pas sur la définition, on peut s'écharper sur les définitions aussi. On peut s'écharper sur tout dans la vie en fait. Mais quand on voit la définition, il y a des fois on s'aperçoit qu'on discute, qu'on tourne en rond parce qu'on n'a juste pas bien défini le terme. Alors le mot fatalisme, alors, il y a plein de manières de le définir, j'en ai pris deux. Il y a une doctrine exposant que la situation et les événements, entre parenthèses désagréables, sont à mettre au compte de la fatalité ou de la volonté divine. Négation du libre arbitre. Voilà, deuxième gros mot. Je suis grossier ce matin. Négation du libre arbitre. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans la définition, c'est sont à mettre au compte de la fatalité ou de la volonté divine. Vous voyez qu'on peut dire, oh non, nous, chrétiens, on n'est pas fatalistes, c'est la volonté du Seigneur. Mais finalement, dans la définition de fatalisme, il y a aussi une volonté de Dieu, de Allah, de autre chose. C'est inclus dedans. Ça fait partie de la définition. L'autre manière de le définir, c'est peut-être un peu plus pratique, c'est résignation devant le cours des choses sur lequel on s'abstient d'agir. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, j'y peux rien, donc bah moi je fais rien, et puis ça y arrivera ce qui arrivera. Donc libre arbitre. C'est presque l'inverse, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue idée, de prédestiné. Prédestiné, c'est tout est écrit d'avance et puis j'y peux rien. Libre arbitre, c'est moi qui choisis tout le temps. Et voilà, je choisis ce que je fais dans la vie, je choisis ce qui m'arrive. Alors bon, ça a des limites aussi, hein, parce qu'il y a plein de choses qui nous arrivent et sur lesquelles on n'a aucun choix possible, en fait. C'est comme ça. On ne choisit pas d'être malade, on ne choisit pas de plein de trucs, en fait. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne choisit pas dans la vie. Le fatalisme peut désigner aussi une attitude ponctuelle, on n'est pas fataliste tout le temps, hein, des fois c'est juste par moment, à savoir le défaitisme ou le pessimisme de celui qui, se sentant voué à l'échec, remet son existence à la main du destin qu'il laisse suivre son cours, abandonnant le combat et l'adversité selon l'inclinaison de sa volonté, subissant un découragement. Très négatif, hein, tout ça. Dans le vocabulaire courant, il désigne l'attitude tout à la fois passive et paresseuse consiste à se résigner à un sort que l'on pourrait aisément éviter en agissant avec énergie et volonté. On oppose le fatalisme au volontarisme. C'est beaucoup d'euïsme aussi, hein. J'ai pas fait gaffe en l'écrivant. Alors qu'est-ce qu'il en est du chrétien? On a beaucoup parlé fatalisme, on a parlé prédestination, enfin du fait que c'était écrit, mais la Bible, elle nous montre que c'est équilibré en fait, comme tout. La Bible, elle est tout le temps équilibrée et il y a les deux notions. Alors dans notre tête, c'est compliqué à regrouper, c'est pour ça que les gens ils s'écharpent depuis des siècles là-dessus, hein, parce qu'on a du mal à dire, ben, si Dieu a tout prévu, comment moi je peux choisir? Et si moi je peux choisir, ben, je peux choisir un truc que Dieu il n'a pas prévu. Et comme ça, ben, Dieu il est mis en défaut. Et en fait, je suis totalement libre de mes choix, mais Dieu a tout prévu. Les deux, ils sont ensemble. Ça nous paraît bizarre, c'est dur à concilier dans nos têtes, mais dans la Bible, en tout cas, il y a les deux notions et elles sont équilibrées. Alors je reprends Lamentation 3,37, j'ai lu que le début. Je vous ai grugé un peu en fait sur certains versets, hein, j'ai fait exprès de ne pas lire la suite. Donc qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis, tu nous as tués sans miséricorde. » Alors la fin, elle est brutale. Mais il y a la notion derrière de « on a péché, on est puni en fonction de ce qu'on a fait ». Et il y a la notion aussi de « on peut te rechercher, on peut revenir à toi ». Parce que les punitions, elles ne sont pas inéluctables quelque part. Il y a cette notion aussi dans la Bible qui est bizarre, mais dont Pascal a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, de faire changer Dieu d'avis. Et il y avait ça aussi dans le bouquin de Frère André sur la prière qui est super bien, où il dit voilà, quelque part on peut faire changer Dieu d'avis dans la Bible. Il y a Moïse qui a négocié avec Dieu, il y a Abraham qui a négocié avec Dieu, il y a plusieurs exemples comme ça, et on voit Dieu se repentir du mal qu'il voulait faire. Alors nous ça nous choque parce qu'on dit Dieu il se repent pas, il fait pas le péché, enfin voilà. Donc on va rediscuter là-dessus, mais ces hommes-là ils ont eu le mérite d'essayer, d'aller vers Dieu, dire écoute, tu me dis ça, moi, je pense que tu n'es pas comme ça et qu'il ne faut pas faire ça. Et tu devrais épargner, tu devrais faire ça. Et Dieu, il, voilà, de façade, on ne sait pas. De toute façon, le seul qui sache ce qu'il en est réellement, c'est Dieu. On ne sait pas s'il change d'avis réellement. On dit qu'il ne change pas. Normalement, non. Mais quelque part, de façade, Dieu dit « Ok, je t'ai dit ça, mais en fait, tu as raison, on ne va pas faire comme ça, on va changer. » Et ça, ça veut dire qu'il y a une possibilité quelque part d'aller argumenter avec Dieu et d'aller agir sur le cours des événements. Et c'est ça le rôle du chrétien en fait. C'est pas les non-chrétiens qui vont aller voir Dieu et dire bah change ta manière de faire. Eux, ils ont pas la possibilité d'aller devant Dieu en fait. Alors que nous, on l'a et c'est notre responsabilité d'aller devant Dieu et dire bah écoute, je suis tellement proche de toi que tu m'as communiqué ça et je suis pas d'accord. Je pense que t'es pas comme ça et il faudrait faire comme ça. Et clairement, il y a des fois où Dieu change son orientation. C'est dans la Bible, c'est pour moi qu'il l'invente. Hein. Donc là, en l'occurrence, ça dit Dieu, tu n'as pas à pardonner, tu t'es caché dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Parce qu'il y avait un stade qui était passé, en fait. Il y a un stade où c'était trop tard et la punition de Dieu, elle était établie. Donc là, on revient à notre idée de c'était trop tard. Mais actuellement, il n'est pas trop tard. Dans la Bible, on dit on est dans la période de la grâce et donc il n'est pas trop tard. On peut encore agir pour les gens, on peut encore avertir, on peut encore. Et donc c'est pas tout fini, c'est pas tout cuit en fait. C'est notre responsabilité en tant que chrétien de prier, d'agir. Dans Galates 6, ça dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Qu'en fait, le résultat, à la fin, il est dépendant de ce qu'on fait. Il ne dit pas, c'est la volonté de Dieu, et puis s'il a décidé qu'il t'arrive du bien, tant mieux, sinon, tant pis. On ne trouve pas cette idée-là dans le Nouveau Testament, en fait. Hein. Ça, c'est nos idées à nous, c'est la volonté du Seigneur, c'est comme ça. Mais là, il dit, voilà, fais le bien, et tu récupéreras du bien à la sortie. Tu fais le bien, tu auras un résultat qui sera bon à la sortie. Fais le mal, tu récupéreras un résultat qui sera mauvais à la sortie. Et ça veut dire que ce n'est pas une question de fatalité, dans ce cas-là, c'est une question de... Enfin, troisième gros mot, je suis désolé. Hein. Déterminisme. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il y a du bien, ça fait du bien. S'il y a du mal, ça donne le mal. C'est un bon arbre porte du bon fruit. Un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Ce n'est pas une question de fatalité, c'est une question qui a une logique des choses et que ça suit la logique. Voilà. Après, Dieu il est capable de greffer des arbres, de les transporter, de changer. Il intervient au-delà de notre logique. Mais la logique, elle fonctionne comme ça. Il y a des règles. Qui gère tout, en fait, tout l'univers. Et Dieu, il n'intervient pas toutes les 30 secondes pour dire « Ah, la gravité, là, ça ne m'intéresse pas, je la coupe. Ah, là, ça ne m'intéresse pas, cette loi-là, je la coupe, ça non plus, tiens, l'électron, il ne tourne plus, je l'arrête. » Enfin, il intervient de manière hyper ponctuelle. Les miracles, c'est une exception, en fait. C'est exceptionnel. Et donc, dans la plupart des cas, ça fonctionne suivant la logique qui a été établie par Dieu au départ. C'est aussi pour ça qu'on peut être scientifique et chrétien. C'est qu'il n'y a pas des miracles tous les jours qui changent les lois en permanence et qui fait qu'on ne peut pas étudier. On étudie les lois que Dieu a mises en place en sachant par moment il intervient et qu'il est capable d'aller au-delà. Jérémie 17, verset 10, Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Là aussi, on voit qu'on est tout à fait responsable de ce qu'on fait. Et Apocalypse 20, toujours dans la même idée, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et on n'imagine pas Dieu nous juger en disant bah, « t'as fait le mal » alors qu'il sait très bien qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas cette notion-là. Dieu, il nous aime et il va dire « bah voilà, j'avais choisi que tu ferais le mal, t'as fait le mal, c'est pas bien ». Il y a un truc qui colle pas en fait, c'est pas le Dieu qu'on connaît dans la Bible. On est jugé par nos œuvres et on est jugé pourquoi ? Parce qu'on est responsable. Celui qui n'est pas responsable, il n'est pas jugé en fait. Il est exempt du jugement. Donc la Bible ne nous invite pas à ne rien faire en attendant que la volonté de Dieu se fasse. Au contraire, elle nous dit, cherche la volonté de Dieu et essaye de la hâter, essaye de l'accomplir en fait dans ta vie. Et c'est là où, alors, je ne dis pas qu'il faut chercher la volonté du Seigneur et savoir si on va avoir une panne le lendemain, si machin, bon. Déjà, le Seigneur ne nous révèle pas tout de sa volonté, mais il y a quand même des choses qui sont importantes, et je pense surtout sur l'aspect spirituel des choses. Il nous révèle les choses, et tout ce qu'il veut, c'est une communion avec nous. Et c'est ça, la communion, en fait. Quand on connaît Dieu, qu'on est proche de lui, il nous montre les choses telles que lui les voit, il nous montre ce qu'il va faire. Et c'est ça le cas d'Abraham, en fait. Il était tellement proche de Dieu que Dieu, à un moment donné, il dit « Mais Abraham, ouais, je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire. On discute tête à tête comme ça. Je vais lui expliquer. » Et là, Abraham, quand il entend, il dit « Mais non, non. Et s'il y avait 20 justes, s'il y avait 50, 20. » Et il négocie. Et on n'arrive pas à ce qu'avait demandé Abraham. En plus, on n'arrive pas aux 10 justes à la fin. Mais Dieu, il fait quand même quelque chose. Et vous voyez que c'est totalement le contraire de Abraham qui dit « Bon, bah... » T'as décidé de détruire les deux villes, mon neveu est là, mais bon, t'as décidé, hein, je peux te faire changer d'avis. Ça, c'est presque plus un comportement d'humain. Hein. C'est entre le mari et son épouse, ou avec les enfants, t'as décidé, c'est tout, hein, c'est comme ça. Ça, c'est du fatalisme. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On peut aller vers lui, et après, voilà, toute la difficulté, c'est de le connaître suffisamment pour qu'il nous révèle ses plans, et le connaître suffisamment pour essayer d'orienter les choses et voilà, de faire aller les choses vers ce qu'on croit être bon. On a plein d'exemples en fait, de gens qui ne sont pas résignés. On a dit Abraham, il y a Moïse, ça c'était l'exemple qu'avait cité Pascal il n'y a pas longtemps, où Dieu dit, bah, écoute, ce peuple, je ne le supporte plus, je le supporte plus, je vais le détruire, et puis toi je te garde et je ferai de toi un grand peuple. Et Moïse il dit, mais non... Tu ne peux pas faire ça, tu vas être la risée des Égyptiens, c'est ton nom qui va être sali. Et Moïse, il joue sur quoi ? Il joue sur ce qu'il connaît de Dieu, et il a raison. Et j'imagine pas autre chose qu'un test de Dieu, en fait. Dieu, il n'avait pas décidé ça, et puis il a changé d'avis. Il change pas d'avis, je pense. Mais voilà, il a dit quelque chose à Moïse, et puis il a voulu voir la réaction de Moïse. Et la réaction de Moïse, elle est parfaite, en fait. Il dit, non, t'es pas comme ça, en fait. C'est ce que tu me dis là, ça ne correspond pas à toi. Ça va salir ton nom et tu ne peux pas toi-même salir ton nom. Donc il joue là-dessus. Ce n'est pas qu'il joue parce qu'il ne joue pas avec Dieu, mais il le connaît et il utilise ce qu'il connaît de Dieu pour orienter les choses. Et il a eu tout à fait raison et il a sauvé le peuple comme ça, quelque part. Abraham, il a sauvé Lot et sa famille comme ça. J'ai un autre exemple aussi, c'est David, où il commet l'adultère avec la femme d'Uri, qui s'appelle Bathsheba. Il y a un enfant qui naît de cet adultère-là. Et je crois que c'est Nathan qui vient vers lui, qui dit bah, « L'enfant, il va mourir parce que tu as commis l'adultère. » Qu'est-ce qu'il fait David ? « Oh, t'as décidé, moi j'y peux rien. Hein. » Bah non. David, il jeûne et il jeûne jusqu'au bout. Et au moment où l'enfant meurt, il mange. Alors les gens, ils font « Mais attends, avant, il était vivant, tu manges pas. Maintenant, il est mort, tu manges. T'es un peu bizarre quand même. » Il dit « Mais avant, je pouvais le faire changer d'avis. Maintenant, il est mort. » Maintenant, il ne reviendra pas, c'est moi qui vais aller vers lui. Donc maintenant, tant pis, ça ne sert plus à rien. Donc là, voilà, il savait qu'à ce moment-là, c'était fini et il ne pouvait plus changer le cours des choses. Quelque part, alors, ce n'est pas une accusation vers David, je pense qu'il c'était un homme de foi, mais il aurait pu aller encore plus loin et dire, bah, je continue à jeûner, je pense que Dieu, il peut me ramener mon fils. Mais Dieu, il avait dit qu'il allait mourir et que... Enfin, c'est compliqué, hein. Il y avait une situation de péché, en fait, c'est ça qui était compliqué là-dedans. Mais tous ces exemples-là, c'est tous des exemples qui vont à l'inverse de la fatalité. C'est tous des gens, et on peut en trouver plein, en fait, finalement, tous les hommes de Dieu qui agissent dans la Bible, c'est bien parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu, qu'ils veulent l'accomplir, qu'ils veulent le salut des gens, et qu'ils n'attendent pas comme ça, à dire, bon, bah voilà, maintenant, Seigneur, fais ce que tu veux, et puis moi je regarde, hein, je suis spectateur. Il y a cette notion de, on est acteur. On est acteur de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Et donc c'est tout le contraire de la fatalité. On est appelé à agir dans la prière et dans les faits. Et d'ailleurs, si on prend la prière, le Notre Père, dedans, c'est pas juste Notre Père, j'attends que ta volonté se fasse. C'est que ta volonté se fasse et ça inclut quelque part de bah, je vais faire le nécessaire pour que ça se mette en place. C'est aussi donne-moi le pain quotidien. C'est pas j'attends, puis bah. Si tu as décidé de me donner à manger, j'aurai à manger. Si tu n'as pas décidé, ben, tant pis, hein, ce sera peut-être pour demain. Notre Père, ce n'est pas ça. C'est donne-moi à manger, je m'attends à toi, en fait. Donc, quelque part, la prière, c'est ça. C'est j'attends pas juste que ça se passe suivant un destin, un truc préétabli quelconque. C'est je vais vers Dieu, je dis voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça, ou je veux ça, mais pas une volonté, c'est moi, quoi. On revient à Jacques. C'est quelque chose de bon, en fait. Je veux le salut de telle personne. Je prends un exemple pour que ça soit clair. Et voilà, on demande et le Seigneur, il répond. Il y a un échange avec lui. C'est pas juste, il a décidé un truc dans son coin et puis nous, on attend, on subit et voilà. C'est pas de la résignation, en fait, dans la prière. Sinon, on prie pas, hein, ça sert à rien. On est encouragé aussi à aller évangéliser de par le monde. Je ne vous cite pas tous les versets, hein. On termine dans la fin de Matthieu. Il y en a plein où ça dit, voilà, il faut aller propager la bonne nouvelle, propager la nouvelle du salut. Et pourquoi? Parce que justement, nous, on n'en sait rien de ce que Dieu a décidé et qu'il faut aller, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient sauvés. Si on était fataliste jusqu'au bout, on dirait, voilà, hein, si un tel y est sauvé, tant mieux, le Seigneur, il se débrouillera, moi, j'ai pas besoin d'agir. De toute façon, il l'a écrit d'avance, ça va se produire comme ça. On revient à mon mauvais raisonnement d'avant, en fait, hein. Donc, on a une action à faire. On n'est pas résigné. On dit, voilà, moi, je ne sais pas qui est sauvé. Je ne sais pas qui sera sauvé ou pas sauvé. Voilà. Donc, je le fais. J'arrose de manière généreuse. Et puis, on verra après là où ça poussera. On ne va pas lire tout Ézéchiel 33. Mais Ézéchiel 33, ça parle d'une sentinelle, en fait. On peut lire juste une partie des versets, en tout cas. J'ai mis plein de conditionnels dans mon papier. Si assez de temps, faire ça. Si pas assez de temps. La parole, donc Ézéchiel 33, les premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Donc on voit bien que la personne, elle est responsable d'elle-même. Elle est responsable, si elle a écouté l'avertissement, tant mieux. Si elle ne l'a pas écouté, c'est elle qui en est responsable. Et au verset 6, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti que l'épée vienne à enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc on a une part de responsabilité dans le salut des autres. Cela, prédestination, c'est facile, je suis responsable de rien, je fais rien. Et la Bible, elle ne nous dit pas ça, elle nous dit, voilà, même le salut des autres, tu as une part de responsabilité. Toi, il faut que tu l'annonces. Après, Dieu y travaille, Dieu y fait, mais toi, tu as une part du travail à faire. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ça sonne très Nouveau Testament aussi, ça. Hein. Quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. On pourrait lire tout le chapitre, mais celui-là, il est long. L'idée, en tout cas, c'est celle-là, hein. Elle est claire. Alors, bien sûr, c'est Ancien Testament, c'était pour un prophète qui veille sur le peuple, mais c'est tout à fait transposable à nous, le fait qu'on est chrétien, qu'on entend l'avertissement de Dieu, et qu'on est censé le transmettre aux autres, en fait. Il y a l'épée, le jugement qui arrive, il arrive sur le monde, il menace tout le monde, et si on n'avertisse pas, on est responsable. Dans Proverbe 24, verset 11, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Oh, je savais pas, moi, Seigneur. C'est pas une réponse. C'est un peu ce que nous dit le passage. Il nous dit sauve ceux qu'on va égorger. Ok, peut-être que de ton point de vue, de mon point de vue, c'est écrit qu'il va mourir. Tu dis celui-là, pff, c'est tout vu. C'est tout vu, vu comment il se comporte. Mais t'en sais rien. Dieu, il te demande juste d'aller voir les gens. Il me demande juste, hein, c'est pour nous tous ce que je dis, d'aller voir les gens et d'essayer de les sauver. Après, la personne, si elle n'est pas sauvée à la fin, que nous, on a fait nécessaire, c'est tout, on n'a rien à se reprocher quelque part. Mais si on ne l'a pas fait, c'est là où on est en faute, en fait. Alors, je vais reprendre encore deux versets qu'on a lus tout à l'heure, mais j'ai triché, je ne vous ai pas lu la fin. Jacques 4, donc c'était à vous maintenant qui dites aujourd'hui, nous irons dans telle vie, nous ferons ceci, cela. Ça a terminé. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et le dernier verset, celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc ça aussi, hein, ça va dans le sens de, faut pas juste dire, moi je savais pas, après peut-être qu'il n'était pas prédestiné, c'est pas ma faute. Non, si tu sais faire le bien, tu le fais et tu te poses pas de questions. Et Jérémie 29, 11, qu'on a lu aussi tout à l'heure, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Alors, ce qui est déjà intéressant à noter, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, hein, mais « projets de paix et non de malheur. » Ce qui est écrit aussi, c'est le salut des gens. Parce qu'on a tendance à penser tous les pépins qui peuvent nous arriver. Mais Dieu, il dit qu'il a fait des bons projets pour nous, en fait. Ce qu'il a prévu, c'est bon, à la base. Et ce qui a raté, c'est l'homme derrière qui a péché et qui a dévié du projet qui était prévu. Mais ce qui était prévu à l'avance, c'était bon. Et le salut de Jésus, c'est bon à la base. Ça reste bon, d'ailleurs. La suite de ce verset-là, c'est « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. » Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. C'est tout l'inverse du fatalisme. Hein. C'est, voilà, prier, je vais vous répondre, il y aura un échange, il y a des choses qui vont se passer, et c'est pas tout cuit d'avance. Je sais plus qui donne des devoirs à la maison, mais j'avais envie de faire la même chose. C'est toi. C'est normal, c'est vrai. Je vous encourage à lire Romains 8 et Romains 9. D'une certaine manière, ça raconte un peu ce qu'on a dit ce matin. Alors, on a l'impression que c'est très prédestination au début, et à la fin, on voit qu'il y a moyen de... que tout n'est pas écrit, en fait, qu'il y a moyen d'agir, qu'il y a moyen de faire changer les choses, comme ce qu'on vient de lire dans Jérémie. C'est OK, si vous êtes sur une mauvaise voie, ça débouche sur quelque chose de mauvais à la fin, mais si vous me cherchez, on change de voie. C'est côté SNCF, hein. On change de voie et on part sur une bonne voie. On va juste lire, comme on a un petit peu de temps, Romains 9, les versets 1 à 25. Mais de toute façon, il faut lire toute la Bible, mais Romains 8 et 9, ils sont sur le sujet, en tout cas, ils sont intéressants. Romains 8 et 9, là, on va juste lire Romains 9. À partir. On va prendre à partir du verset 6 pour essayer d'être un tout petit peu plus court. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Alors, et ça commence déjà, la parole de Dieu elle a un effet, quoi qu'il arrive. C'est écrit d'avance. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. De plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Ça, c'est le premier côté que j'ai dit tout à l'heure. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors là, on en vient à notre réflexion à nous, au verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Il n'y a pas d'injustice. Il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, après tout, hein? Pourquoi Dieu fait des reproches, puisqu'il a dit qu'il faisait miséricorde à qui il veut, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Et là, Paul y répond, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc il continue en fait, hein, il dit, mais Dieu, il a décidé de faire ça ou ça avec les vases. Ce qu'il dit, c'est, il ne faut pas blâmer Dieu. C'est important aussi de dire, il ne faut pas blâmer Dieu. Parce que c'est tout, il a décidé les choses comme ça, mais par la suite on voit que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et voilà, il y a des vases qui sont destinés à la perdition, et Dieu y supporte avec patience et il retarde les choses. Il retarde pourquoi? Parce qu'il laisse une chance derrière. Donc c'est voilà, il y avait cette notion jusqu'ici de c'est écrit, mais là il dit voilà. De ton point de vue, il y a des vases qui vont à la perdition. De mon point de vue aussi, il doit se dire Dieu. Mais voilà, je supporte, je patiente, parce que ça peut changer. Alors, du coup, j'ai perdu mon verset. Et verset 23, « S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils sont appelés fils du Dieu vivant. C'est ça le passage qui est important et qui remet les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, voilà, il y avait un chemin qui était écrit comme ça, c'était Israël qui devait être le peuple de Dieu, et voilà, c'était limité à Israël. De notre point de vue, en tout cas, Dieu avait bien prévu les choses d'avance, mais tout tient à ça, en fait. Tout tient à notre point de vue à nous, qui est limité. On ne sait pas tout, et donc on dit, bah tiens, Dieu, il a, voilà, c'est tout cuit, ça va se passer comme ça. Et Dieu, il dit, mais de ton point de vue, j'avais prévu Israël et ça n'allait pas changer. Et en fait, j'ai décidé que ça allait s'étendre aux autres nations aussi. Et toi qui étais destiné à la perdition, en fait, t'es prévu pour le salut. Et des gens d'Israël qui pouvaient se dire, bah moi, je suis le peuple de Dieu, donc je serai sauvé, quoi qu'il arrive, c'est écrit. Eh ben non. Donc c'est pas tout cuit, il y a une responsabilité et il y a surtout au milieu de tout ça la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu en fait, qui dit voilà je change d'avis, comme on l'a vu avec Moïse, Abraham, avec plein de gens. Je pense aussi à l'exemple, juste pour en mettre un dernier et appuyer bien dans ce sens-là, à Jonas en fait. Il était chargé de faire quoi? Il doit aller voir Ninive et dire, ben, Ninive, t'es détruit, dans 30 jours, c'est fini. Ou 40 jours, je ne sais plus la durée. 30 jours, je crois. 40. Dans tout cas, il va voir. Au début, il n'y va pas. Dieu le ramène. Il dit, si, c'est écrit d'avance, tu vas aller voir Ninive. Donc, il s'arrange avec les événements pour le faire revenir à Ninive. Jonas, il avait le choix. Il aurait pu, dès le début, aller voir Ninive. Ce n'était pas écrit d'avance qu'il allait prendre toutes ces galères-là. C'est juste qu'il a choisi un chemin compliqué. il va voir Ninive et qu'est-ce qui se passe? Dieu détruit la ville puisqu'il l'a dit. Eh ben non, parce qu'il y a la grâce de Dieu et que Ninive a encore, voilà, il y a eu le salut dans la ville. On dit même jusqu'aux animaux, il y a eu une humiliation générale de toute la ville à tous les niveaux. Dieu a eu pitié et du coup Jonas il a fait la tête à la fin. Si zut, moi j'annonce un truc, hein, on dit la parole de Dieu s'annonce, j'arrive, j'annonce, et à la fin, flop. Mais il y a eu la grâce de Dieu. C'était écrit que la ville allait être détruite, et finalement, elle a été détruite après. Parce que la situation, elle s'est redégradée, quelques dizaines d'années après, elle a été détruite. Donc la parole de Dieu, elle s'est produite, elle a eu l'effet qui était prévu, simplement nous on ne l'avait pas compris. Il dit, Dieu, il dit, voilà, je vais détruire Jonas, il y va, hop, Dieu, il détruit la ville, c'est comme ça. Mais non, nous, on a une vision très très courte des choses. Dieu, il dit détruit, mais il n'a pas dit qu'il allait détruire tout de suite. C'est pas écrit quand. Et il a laissé de toute façon cette possibilité de salut. Donc, dans tout ce qu'on lit à chaque fois, il y a toujours cette porte. Je vous ai dit, quand je vous ai lu des versets, j'ai coupé exprès parce qu'après, il y a toujours cette notion de, voilà, cherche-moi et je vais me laisser trouver. Ou voilà, je donne grâce, je sauve le peuple. Il y a toujours cette notion de salut derrière quand on voit la prédestination. Et dans Romains 9, il n'y a pas exception. Derrière, Dieu dit, voilà, j'avais prévu des vases comme ça, et en fait, ils vont donner autre chose. J'avais prévu ces vases-là, ils vont donner autre chose aussi. Donc, il y a toujours la grâce de prévu. Donc, faut pas en rester. Alors, je dis, pour la panne de la voiture, c'est comme ça. Mais non, elle va, ouais. Mais... Il faut pas forcément tomber dans l'excès inverse de chercher à la volonté du Seigneur pour la moindre minute de notre vie. On s'en sort pas. Il y a des choses où Dieu a juste décidé de pas nous le dire. Il y a des choses où ça n'a pas d'importance en fait. Mais derrière, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il veut m'apprendre aussi au travers de ça. Parce que si c'est sa volonté, c'est qu'il a un but. Il fait pas ça juste pour tiens lui, je lui envoie une panne, lui je fais ça. C'est ça, c'est un peu le mille bornes. Ah, pneu crevé, hop, panne d'essence. Dieu il joue pas aux cartes comme ça. On en rigole, mais quelque part, c'est un peu ça notre... Quand on dit, c'est la volonté du Seigneur, c'est tout, il a décidé. On a l'impression qu'il colle des événements dans notre vie. Et puis, voilà. En fait, il y a un but pour nous, c'est de nous faire grandir en lui, c'est de nous faire grandir dans sa connaissance. Et du coup, quand il nous arrive des choses, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'il veut nous apprendre. Donc, je dis, il y a cette notion de prédestination dans la Bible, mais il y a cette notion vraiment complémentaire de on est responsable de nos actes, la notion de responsabilité. Donc il faut qu'on cherche la volonté du Seigneur et réellement, pas coller des DV au bout de chaque nos phrases, hein, dire si Dieu veut, voilà. Puis je fais à ma sauce, puis si un coup de temps en temps il m'en empêche, c'est tout. Mais je cherche vraiment, profondément la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est quoi? C'est le salut, c'est la grâce. On l'a vu dans tous les versets. Alors, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta volonté. Merci aussi de ce que tu fais pas de nous, des robots qui accomplissons une tâche prédéterminée, préprogrammée. Seigneur, on n'est pas des ordinateurs programmés pour faire quelque chose. Et Seigneur, tu nous aimes, tu veux une vraie relation avec nous. Tu veux nous montrer ta volonté, nous la communiquer. Seigneur, on a des exemples extraordinaires dans ta parole avec Abraham, Moïse, David et d'autres qui ont connu ta volonté, qui étaient proches de toi et qui ont été capables d'argumenter avec toi, de négocier pour le salut des gens. Merci Seigneur, et je te prie de nous faire grandir en toi et de nous rendre comme ces hommes, Seigneur, d'être là pour le salut des autres. Seigneur, on l'a lu tout à l'heure, nous avons cette responsabilité pour le salut des autres et je te prie qu'on en prenne conscience, Seigneur, au jour le jour et qu'on soit plus libre de témoigner de toi, Seigneur. Amen.